إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد. إخوتي الكرام, dans la conférence précédente, nous avons expliqué que l'enracinement scientifique consiste à l'acquisition de la bonne compréhension et à l'accroissement des connaissances. Nous avons aussi vu le cheminement à suivre pour accéder à l'enracinement scientifique. De ce fait, dans cette intervention, nous allons expliquer l'origine des erreurs, des manquements et des transgressions afin de les comprendre et de savoir comment y remédier. Ces erreurs, ces manquements et ces transgressions émergent généralement d'une mauvaise compréhension et d'un manque de connaissances. Aussi, lorsqu'on parle de mauvaise compréhension, cela veut dire que l'individu n'a pas acquis le niveau requis pour comprendre les paroles des savants et les enseignements religieux. Il est possible qu'il ait assimilé les sujets de base que tout musulman ordinaire de la masse comprend, tels que les questions de croyance et de manhaj en général, les préceptes de la croyance des gens de la sunna et du consensus concernant les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le destin et autres. Il en a probablement même mémorisé les arguments et en connaît les significations. Tout cela est bien en soi. Néanmoins, il n'a pas le niveau de compréhension pour approfondir ces sujets et les développer. Alors comment, avec de telles lacunes, cet individu peut prétendre à l'enseignement des sciences religieuses et prétendre transmettre les paroles des savants fidèlement, expliquer des épîtres et des livres et faire de la prédication? Cela est une responsabilité qui dépasse ses compétences, pour laquelle il n'est pas qualifié et qu'il n'a donc pas le droit d'endosser. Il doit laisser cette responsabilité à ses ayants droit, les gens de science, les étudiants enracinés, dotés de bonne compréhension, desquels il ne fait pas partie. Il doit se restreindre à ce qui répond à ses compétences, sans jamais les transgresser, comme cela sera expliqué dans la prochaine conférence, inshallah ta'ala. Aussi, le problème ne se limite pas à cela. Le véritable problème est que malgré ces lacunes de compréhension, certains ont quand même l'audace de se mettre en avant et de tenir des propos tels que « Le sujet est ainsi. La parole prépondérante est celle-là. C'est ainsi que la preuve doit être comprise. Voilà ce qu'elle signifie. Voilà la parole du savant. Il faut faire cela. Celui qui ne s'y conforme pas est un égaré. » etc. Voyez, avec Internet et les moyens de communication modernes tels que les groupes WhatsApp, les comptes Twitter, Telegram, Facebook et autres, qui ont aisément donné la possibilité à ceux ne satisfaisant pas aux critères fixés de déballer leur sottise et leur ignorance, de critiquer et de parler sur les gens, de causer des troubles et de perturber nos jeunes et même d'importuner les gens de science. Alors que lorsque nous estimons ces individus à travers les critères de la science et de la raison, ils ne valent rien. Dès que le débit internet est faible, qu'ils n'ont plus accès à Google, à la Maktabat Shamila et autres, ils n'ont plus aucune science. Ainsi, le fait que ces individus prennent de telles responsabilités est la première raison des problèmes affectant la da'wa, et cela renvoie à une défaillance scientifique. Ensuite, la seconde raison est la question de l'approfondissement des connaissances, c'est-à-dire l'érudition. Aussi, lorsqu'on fait référence à un manque de connaissances, cela veut dire que l'individu n'a pas rassemblé les connaissances satisfaisantes. Quand bien même celui-ci a une bonne compréhension et lu certains ouvrages et explications des gens de science, mais il n'a pas atteint l'étape de l'enracinement et de l'étude minutieuse des encyclopédies de référence tel que nous l'avons décrit dans la précédente allocution. Aussi, un sujet ne peut véritablement être compris que lorsque toutes ces notions sont réunies. Alors comment, avec aussi peu de connaissances, cet individu peut-il prétendre à l'enseignement des sciences religieuses et transmettre les paroles des savants fidèlement, expliquer des épîtres et des livres et faire de la prédication? Les informations qu'il ignore peuvent affecter les avis qu'il aura choisis. C'est pourquoi l'individu endossant ses responsabilités sans avoir rassemblé les connaissances satisfaisantes est lui aussi considéré comme faible sur le plan scientifique. Il faut bien comprendre que le manque de connaissances n'est pas un problème en soi. Cependant, il le devient lorsque certains individus s'autorisent à traduire les paroles des savants simplement parce que, dans le meilleur des cas, ils ont étudié la langue arabe quelques mois en Égypte ou ailleurs. Ça le devient lorsque certains s'autoproclament prédicateurs parce qu'ils ont seulement lu quelques livres ou assisté à diverses assises de sciences. Ça le devient lorsque certains se permettent d'enseigner les sciences religieuses, expliquer des épîtres et des livres parce qu'ils ont uniquement obtenu un diplôme universitaire ou un semblant de tazkiya, de recommandation. Et je dis bien un semblant de tazkiya, car j'expliquerai dans des prochaines interventions les problèmes liés à celle-ci. Quand est-ce que celle-ci est nécessaire? Comment devons-nous agir lorsque la personne a une tazkiya? Comment devons-nous la comprendre? Et ainsi de suite. Ainsi, ça le devient lorsque certains individus abordent des sujets sans les avoir approfondis, en ne connaissant qu'un seul avis sur la question. Alors que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a à plusieurs reprises dans ses ouvrages blâmé cette manière d'agir. Afin de mieux comprendre, si une personne lit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, khalaqallahu Adam ala suratihi. Le hadith de Abu Hurayra radiallahu anhu, rapporté par l'imam Muslim dans son authentique, Allah azza wa jal a créé Adam à son image. Il lit ce hadith dans Kitab al-Tawhid de l'imam Ibn Khuzaymah rahimahullah ta'ala et se contente de son explication, à savoir que son image fait ici référence à Adam. Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam à son image, à lui, à l'image de Adam. Et que l'avis selon lequel cela fait référence à Allah azza wa jal, c'est-à-dire Allah azza wa jal a créé Adam à son image, à lui, subhanahu wa ta'ala, est nul et n'émane que de quelqu'un qui n'a pas compris la sunnah. Ça, ce sont les explications de l'imam Ibn Khuzaymah dans Kitab al-Tawhid. Dès lors, si cet individu entend quelqu'un dire que cela fait référence à Allah Azza wa Jal, il va, en se basant sur son manque de connaissance, le qualifier d'anthropomorphiste ou au minimum d'ignorant. Alors que s'il avait approfondi son étude de la question en suivant la méthodologie que nous avons expliquée dans la précédente conférence, il aurait su que l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a affirmé que cet avis de dire que cela fait référence à Allah subhanahu wa ta'ala sans lui donner de description ni de représentation est celui des gens de la sunna et du consensus à l'unanimité, et que nier cela était une erreur de la part de l'imam Ibn Khuzaymah rahimahullah ta'ala. Voyez donc comment les choses se sont inversées. Cet individu a fait de l'erreur l'avis qui ne peut être contredit. Ainsi, qui commet ce genre d'erreur ne le fait qu'à cause de son manque de connaissances. Et cela est une chose qui a trop souvent été remarquée chez certains qui ont eu des prétentions quant à la prédication et à l'enseignement des sciences religieuses sans en avoir acquis les qualifications suffisantes. Aussi, il est important d'expliquer ici que ces individus ne peuvent s'excuser ou être défendus en disant que les savants aussi commettent des erreurs. Sachant que personne ne peut nier cela après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit « Kullu ibn Adam khatta wa khayrul khatta'in at-tawwabun » Donc dans le hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu, qui est rapporté par l'imam Tirmidhi ainsi qu'Ibn Majah et d'autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tous les enfants d'Adam commettent des erreurs, et les meilleurs de ceux qui commettent des erreurs sont ceux qui se repentent. Personne ne nie cela. Néanmoins, cette comparaison est ce que l'on pourrait appeler un qiyas fasid, une analogie erronée, le fait de comparer ces personnes-là aux savants. Du fait que les savants n'ont pas prétendu à la prédication sur ces mêmes conditions, à savoir une mauvaise compréhension et un manque de connaissances. Les savants n'ont pris la charge de ces responsabilités qu'après en avoir satisfait les conditions, après avoir acquis une bonne compréhension et avoir accru et enraciné leurs connaissances. Ainsi, lorsqu'ils commettent une erreur, celle-ci est le résultat d'un effort d'interprétation. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet: إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمْ فَأَصَابْ فَلَهُ أَجْرًا وَإِذَا اجْتَهَدَ وَأَخْطَى فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ. Donc dans le hadith de Abi Huraira radiallahu anhu, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim dans leurs deux authentiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le juge fait un effort d'interprétation et qu'il ajuste, il obtient deux récompenses. Et lorsqu'il se trompe, il en obtient qu'une seule. Ainsi, lorsque les savants commettent des erreurs, c'est le résultat d'un effort d'interprétation et non pas d'un manque de connaissances ou encore d'une mauvaise compréhension. Donc, on ne peut comparer ces gens, ils ne peuvent s'excuser et ils ne peuvent être défendus en faisant ce genre de comparaison. Aussi, lorsqu'on rappelle ces conditions, il n'est pas rare d'entendre que ces critères sont difficiles à satisfaire, qu'on crée des problèmes et rend la prédication difficile, que les personnes qui prétendent à de telles responsabilités veulent seulement transmettre la science et faire profiter leurs frères, qu'ils ne font que traduire, lire l'explication d'un savant d'Al-Usul al-Thalatha, Al-Qawa'id al-Arba', etc. En dehors de faire abstraction au fait qu'ils ne répondent pas aux critères fixés pour de telles responsabilités, le problème est qu'il ne se passe pas un jour sans que l'on voit ces individus passer à l'explication de l'Aqidat al-Wasitiyya, de Kitab al-Tawhid, de l'Aqidat al-Tahawiyya et autres, alors qu'ils n'ont pas étudié ces livres auprès des savants et n'ont pas été autorisés à les enseigner. Puis du jour au lendemain, ils deviennent des références, répondent à des questions, émettent des fatwas, prononcent des mises en garde, alors qu'ils ne sont pas enracinés scientifiquement et ne sont pas légitimes et qualifiés pour de telles responsabilités. Voyez alors où a mené la négligence de ces critères. Observez donc le résultat d'avoir laissé des individus prétendre à ces responsabilités en se basant uniquement sur le fait qu'ils aient étudié en Égypte, au Yémen, à Médine, à la Mecque ou ailleurs, qu'ils soient diplômés de telle faculté, qu'ils aient tel titre universitaire, qu'ils aient étudié tant d'années, qu'ils aient étudié auprès de tel shir, qu'ils aient assisté à l'explication de tel livre, qu'ils soient connus de tel prédicateur francophone, qu'ils soient salafis et autres. En conclusion, vous ne devez pas vous baser sur ces critères lorsque vous voulez apprendre la religion auprès d'une personne. Vous devez d'abord vous renseigner sur l'enracinement scientifique de celle-ci, si elle a acquis la bonne compréhension et a approfondi ses connaissances. Nas'alullah al-hidayata wa al-tawfiq li kulli khayr wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.